sans plus attendre et pour tenir les délais, mais on est pile dans les temps puisqu'il est 10h, nous allons accueillir Philippe Portier pour la conférence inaugurale qui s'intitule « Laïcité et enseignement des faits religieux ». Alors pendant que Philippe s'installe, je présente rapidement. Donc Philippe Portier est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est également titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités et il pilote la commission qui s'occupe de l'enseignement moral et civique pour les lycées.
Bien, mesdames et messieurs, je suis très, très, très heureux et très, très honoré de pouvoir intervenir dans ce colloque à la fois innovant et extrêmement utile pour le futur de nos formations, non sans remercier évidemment les personnes qui m'ont invité, Isabelle Arlet, Marine Quenin et Pierre Kahn en particulier. Alors, je vais essayer de réfléchir avec vous sur l'articulation entre laïcité et enseignement des faits religieux. Et pour ouvrir cette réflexion, il faut tout d'abord, me semble-t-il, passer par le tournant que représente la modernité politique dans les sociétés occidentales. Un ordre inédit s'installe en Europe à partir du XVIIIe siècle. Les sociétés répudient alors l'ascendant de la foi pour laisser place à une politique qui est tout à la fois une politique de l'immanence et de la pluralité. Cette nouvelle structure de l'être ensemble procède d'une double mutation. S'impose d'abord une nouvelle figure du sujet, nouvelle figure de l'idée d'humanité. L'homme se concevait dans l'espace médiéval comme une créature assujettie aux règles de l'ordre divin. Il devient alors, à partir du tournant moderne, son propre créateur. Shakespeare disait dans son Coriolan, l'auteur de ses propres jours. La liberté de là change de nature. Elle était hier assujettissement, soumission volontaire, consentie aux prescriptions de la loi éternelle. Elle devient, à partir du tournant moderne, requête d'autonomie. Elle est la faculté offerte au sujet de déterminer à son gré, en s'appuyant sur les droits que lui confère la nature, sa propre ligne d'existence. Transformation de l'idée de sujet, à quoi correspond très vite une transformation de l'idée de pouvoir. L'âge ancien fixait l'autorité dans l'hétéronomie. Issue de la providence divine, le gouvernement royal avait pour objectif de conduire les êtres sur le chemin de la bonne vie, de cette vie de la perfection morale, et qui devrait demain les ouvrir à la possibilité du salut. Il se trouve qu'avec la modernité, cela change. Le pouvoir vient désormais d'en bas et du nombre. Il est issu d'un pacte strictement humain et il se met du coup au service de l'autonomie de ces sujets en leur permettant de faire valoir, par la préservation de leurs droits, leur propre idée de la vie agréable, leur propre idée de ce que Hobbes appelait la « delightful life ». Alors cette nouvelle configuration s'accompagne de l'instauration d'un modèle inédit de relation entre le religieux et le politique qu'on appelle le modèle de laïcité, qui est mobilisé pour résoudre la question proprement inédite de la pluralité religieuse et convictionnelle. C'est précisément le défi de cette pluralité convictionnelle, de cette pluralité religieuse, qui appelle la configuration de la solution laïque. Un peu partout en Europe, bien que selon des formules différentes, la laïcité s'articule autour de deux grands principes de fonctionnement. Des principes qui permettent, au fond, de rassembler l'ensemble des expériences du monde issues de la modernité. Il y a d'abord la liberté de conscience qui se déploie en liberté de croire et de ne pas croire, avec la possibilité pour chacun d'exprimer publiquement ses croyances, dès lors que cette expression ne trouble pas les requêtes de l'ordre public. S'ajoute à cette affirmation de la liberté le principe de neutralité, neutralité du politique, qui se tient désormais à distance de toute dépendance à l'égard de la loi divine, en autorisant dans l'égalité due à chacun la liberté de conscience et d'opinion. Le principe d'autorisation, lui aussi décrit par Thomas Hobbes. Alors ce dispositif de laïcité, qui vient de la possibilité désormais d'organiser le social autour de l'hétérogénéité des expériences du monde, ce dispositif de laïcité laisse une question en suspens que se posent tous les auteurs de l'ère moderne, de Rousseau à Durkheim, en passant par Fichte et Croce. Comment faire de l'un, comment faire de l'unité à partir de notre pluralité constitutive? Comment créer du commun dans un monde qui est désormais livré au principe de subjectivité? L'éducation morale, pour parler comme Émile Durkheim, constitue une partie de la réponse. Souvent, on l'ignore un peu, elle s'est articulée, même en situation de modernité, avec le religieux. Et on repère, de ce point de vue, en Europe, deux grands types de modèles constitués dès le moment de l'entrée dans la modernité politique. Il s'est agi parfois de mettre en place un modèle segmenté dans lequel chacune des grandes confessions présentes sur un territoire donné a pu disposer d'un quota officiel d'heures d'enseignement. On a trouvé ce modèle en Belgique, où les confessions, à quoi s'ajoutaient d'ailleurs des cours de morale laïque, ont pu bénéficier de la possibilité de faire valoir au sein même des établissements publics une instruction religieuse. On a trouvé ce modèle en Allemagne à partir de la constitution de Weimar en 1919, et ce passage à la démocratie s'est fait en Espagne après la mort de Franco, en s'adossant à un modèle de ce type, ce qui n'a pas empêché bien sûr l'Église catholique d'avoir la part du lion en la matière. Modèle segmenté où une pluralité de forces religieuses bénéficie à l'intérieur de l'espace de l'école publique d'une possibilité d'enseignement. Il s'est agi aussi, deuxième modèle, dans les pays plus monocolores du point de vue religieux, d'un modèle unifié, d'un modèle de rassemblement autour d'un cours unique de religion, d'abord lié à la confession dominante, de plus en plus ouvert à mesure que les sociétés se sécularisaient et se pluralisaient, à l'interconfessionnel ou au non-confessionnel. Ce fut le cas en Angleterre, ce fut le cas au Danemark, c'est aussi le cas en Italie, où les cours officiels de religion sont dispensés par les catholiques. On verra demain, je crois, l'exemple de la Grèce qui correspond aussi à ce modèle unifié. Alors, quel est dans ce cadre le modèle français ? L'idée que je voudrais essayer de développer ici, c'est précisément qu'il n'y a pas de modèle français à proprement parler. Il n'y a pas de modèle français à proprement parler, tout simplement parce que le dispositif a évolué à travers le temps, pour ce qui concerne en tout cas le rapport entre école et religion. On peut, sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, repérer deux grands systèmes différenciés d'organisation. Le premier, qui court de 1880 à 1960, avec quelques années de battement, peut être dit séparatiste. Le religieux se trouve alors tendanciellement relégué, en dehors de l'école publique, dans la seule relation qui se noue entre la famille et l'Église, entre la famille et les communautés religieuses. Ce modèle traduit dans son ordre la première phase de la laïcité française, celle qui s'impose sur l'assise de la loi de 1905, selon laquelle la République ne reconnaît aucun culte. Le second moment, qui court des années 1990 aux années immédiatement contemporaines, peut être dite intégrationniste. Selon des modalités propres, où se manifeste tout de même l'existence d'un sentier de dépendance au passé, le religieux, et je laisse le terme pour l'instant dans sa dénomination un peu vague, le religieux refait surface. Il refait retour à l'intérieur de l'école publique, à travers l'enseignement des faits religieux, sans que cet enseignement ne se substitue pourtant à l'instruction civique ou à ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique. Alors, évidemment, on voit bien là cette idée qu'entre le modèle français ou les modèles français, en tout cas le modèle français d'origine et les autres modèles européens, il y a une distinction forte. Dans les autres pays, très souvent, l'État souverain, s'affirmant dans sa modernité, délègue aux églises ou à l'église le soin de produire l'éthos commun d'une société. Nous n'avons jamais en France, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer maintenant, accédé à cette requête. Ce sont donc ici deux moments que j'étudierai, le moment séparatiste et le moment intégrationniste. J'essaierai de développer de manière peut-être plus précise ces deux expressions. Vous remarquerez que j'ai laissé de côté ici une vingtaine d'années. Ces années qui courent de 1965 à 1985, de 1970 à 1990, tout simplement parce que j'ai tendance à considérer que ces années-là sont des années d'incertitude, on pourrait presque dire de crise. On assiste là à une remise en cause de l'enseignement moral et civique, et il n'y a pas encore de structuration d'un enseignement des faits religieux, une sorte d'espace ou de territoire du vide, et on est là, au sein de la laïcité générale comme au sein de la laïcité scolaire, dans un moment que j'ai appelé ailleurs un moment marqué par la croyance dans l'harmonie naturelle des différences. On sort de l'âge ancien marqué par la requête d'unité. On n'est pas encore arrivé dans ce moment intégrationniste qui essaye de marier unité et pluralité. Je la décrirai tout à l'heure. Alors commençons, si vous voulez, par le moment séparatiste. C'est une constante dans tous les discours post-révolutionnaires, depuis ceux de Robespierre et Saint-Just jusqu'aux discours de Guizot et Tocqueville, on ne peut vivre dans l'individualisation absolue des conditions que risque de produire l'avènement de la société révolutionnaire. D'une certaine manière, les révolutionnaires sont presque affolés, ces modernes sont presque inquiets de leur propre audace. Ils ont porté sur les fonts baptismaux la déclaration des droits de l'individu et ont cassé l'unité morale des choses. Comment essayer, dans ce monde-là, de recréer du lien? Je viens de parler d'acteurs politiques, je pourrais tout aussi bien évoquer la littérature du début du XIXe siècle, Victor Hugo, Balzac, Eugène Sue. L'ensemble de ces écrivains sont marqués, en effet, par l'angoisse d'une société qui se déstructure à mesure qu'elle s'individualise. Alors comment faire pour éviter précisément cette déstructuration du social? Il s'agit de recréer du lien, et de recréer du lien en particulier par l'éducation. La révolution jacobine, comme le décrit fort bien le décret Bouquier de 1794, met en place un dispositif très clairement éducationniste. Cette idée qu'il faut recréer sur les décombres de la vieille religion historique ce qu'on pourrait appeler une religion politique, surplombée par le principe de l'être suprême. Se met en place alors une forme de religion substitutive. La stabilisation napoléonienne, qui intervient une dizaine d'années plus tard, introduit quant à elle une alliance entre l'État souverain, l'État moderne, et les cultes positifs ou historiques. Il s'agit là de stabiliser une société, de la fixer dans des masses de granit qui évideront précisément sa décomposition. C'est contre ce modèle-là, le modèle de partenariat que Napoléon institue, que la Troisième République s'est instaurée sur l'assise de ce qu'on appelle en sociologie politique une théorie du strong state, de l'État fort, un État fort qui articule dans sa propre configuration tout à la fois l'universalisation du politique et la privatisation du religieux. Alors, je voudrais essayer de présenter ce moment particulier de notre histoire où se forge, sur le fondement de la théorie de l'État fort, le modèle séparatiste en deux temps. Tout d'abord, vous dire qu'un premier moment logique est caractérisé par une critique du principe concordataire et qu'un second moment logique ouvre sur la construction d'un modèle inédit qu'on peut dire ici séparatiste ou dissociatif. Ouvrons tout d'abord par ce moment critique, ce moment judicatif, en essayant de rappeler ce qui fait le propre du principe concordataire tel qu'il se met en place dans les dispositifs scolaires du XIXe siècle, de ce premier XIXe siècle, qui court en fait de 1800 jusqu'en 1880. Il me semble qu'il faut le percevoir d'abord, ce modèle du XIXe siècle, à partir de ses fondements, des fondements qui sont à la fois stratégiques et doctrinaux. Fondements stratégiques, il s'agit pour ceux qui arrivent au pouvoir après la décennie révolutionnaire, pour ceux qui arrivent au pouvoir dans le sillage de Napoléon Bonaparte, de stabiliser la société française en essayant d'agréger autour du nouveau régime ce que le concordat de 1801 appelle la grande majorité des Français, cette majorité des Français qui se retrouve dans le catholicisme. Il faut réconcilier les deux France, ces deux France qui se sont affrontées dans une guerre civile au cours de la période précédente. Ce n'est pas au nom d'un argument religieux qu'on tente de réconcilier l'État et l'Église, c'est au nom d'un argument très moderne au fond. L'argument de la paix civile, l'argument de l'ordre public, par lequel l'État souverain s'agrège le secours, le soutien des forces religieuses pour fonder la possibilité d'un nouveau vivre ensemble. Fondement stratégique qui porte constamment le discours napoléonien, mais fondement doctrinaux aussi. Nous sommes dans une phase de modernité émergente, où l'on ne se passe pas encore de l'hypothèse de Dieu. Bien sûr, comme le dit Voltaire, chacun peut aller au ciel par le chemin qu'il juge bon. Mais en même temps, cette pluralité ne s'accompagne pas alors d'un indifférentisme religieux. On conçoit toujours, au début du XIXe siècle, cette idée que pour construire le social, il faut d'abord l'appuyer sur le religieux. C'est la fameuse phrase du grand juriste de Napoléon, Portalis, qui disait que si l'État arrête le bras du voleur, c'est la religion qui en change le cœur. Religion, mais quelle religion ? Non pas au début du XIXe siècle, la religion du déisme, portée par les Lumières françaises. Ce sont les religions historiques qui se trouvent alors convoquées à travers les quatre cultes reconnus par le régime impérial, le culte catholique, le culte protestant sous ces deux espèces, luthérienne et réformée, le culte juif. Ces cultes-là doivent être protégés, surveillés sans doute, mais protégés, parce qu'ils sont au principe de la constitution de la morale sociale, à partir de laquelle on évitera précisément la dislocation du social sous l'effet de l'individualisation des conditions produites par la révolution de 1789. Alors les dispositifs concordataires sont connus, ce sont des dispositifs institutionnels par lesquels, au sein même de l'école d'État, au sein même de l'école publique, les forces religieuses s'agrègent aux forces étatiques pour produire une éducation morale permettant précisément d'éviter la désagrégation du social. On le voit en particulier avec la délégation, pour ce qui concerne l'école primaire, de l'enseignement à des congrégations religieuses. On le voit aussi à partir de la présence dans l'enseignement secondaire de prêtres enseignants et parfois de proviseurs religieux qui gèrent les établissements relevant pourtant de l'espace public. Nous ne sommes pas encore sous la Troisième République. Au plan axiologique, les choses sont très claires. Elles s'expriment dans le décret impérial de 1808. L'enseignement trouvera appui sur les principes de l'Église catholique. C'est une première phase qui va ensuite se prolonger tout au long du XIXe siècle à travers la constitution de ce programme particulier, de cette discipline particulière, qui est l'instruction morale et religieuse, elle-même sous-tendue par des lectures constantes dans les salles de classe de l'histoire sainte, cette histoire sainte qui crée un patrimoine commun et qui permet d'accompagner à la fois la morale et l'acquisition de la langue française pour toutes ces générations qui se déploient dans le premier XIXe siècle, un premier XIXe siècle qui n'a pas encore opéré la différenciation qu'on va voir ensuite advenir sous la Troisième République. Alors évidemment, les républicains jugent que ce modèle est un modèle extrêmement critiquable. Il est critiquable pour deux raisons essentielles. De leur point de vue, un argument théorique est d'abord invoqué. Ils estiment qu'il n'est pas besoin de la religion, et en particulier de la religion historique, celle portée par le catholicisme en particulier, pour fonder le lien moral. Ici, plusieurs écoles se rejoignent, plusieurs écoles convergent pour affirmer précisément la possibilité d'une morale indépendante des forces religieuses déjà constituées. C'est le déisme porté par Jules Simon, par exemple, qui renoue avec la grande thèse de la religion naturelle du XVIIIe siècle. C'est aussi le néo-kantisme, dont parle beaucoup Renouvier, dont parle beaucoup Jules Barni, qui estime que si le religieux peut être raisonnable, il n'est nullement nécessaire pour fonder la morale. Il peut éventuellement couronner une expérience de sens, jamais, en tout cas, la structurer en ses racines. Et puis, il y a aussi ce fameux positivisme dont Jules Ferry va se faire bientôt le héros. Cette idée, précisément, qu'il n'est pas besoin de Dieu pour fonder une morale républicaine, la conscience éclairée par le savoir, la conscience portée par la raison savante permet d'accéder à une bonne vie. Et on voit que toutes ces pensées convergent pour remettre en cause précisément la croyance à laquelle était encore attelé, adossé le principe concordataire, l'union nécessaire pour construire une morale civique, l'union nécessaire de la morale et de la religion. À cela s'ajoute un argument politique. On croyait que l'Église catholique, qui est la religion de 97% des Français, alors que la religion catholique s'accommoderait de la modernité, c'est tout le rebours qui est advenu. Le XIXe siècle, c'est finalement l'histoire d'un repli de l'Église sur une intransigeance réfractaire aux requêtes de la modernité. L'Église ne pourra jamais, disent les papes de l'époque, se réconcilier avec la civilisation nouvelle, avec la liberté et avec le progrès. Mettez-vous à la place des républicains, comment peuvent-ils envisager de rester dans l'alliance avec cette force qui fait obstacle à l'avènement de la cité des esprits émancipés? Alors, sur le fondement de cette critique, va bientôt se mettre en place, c'est le second moment, le moment instauratif, un modèle totalement inédit au regard du principe concordataire d'organisation de l'enseignement et à l'intérieur de l'enseignement d'organisation de la relation entre le religieux et l'éducation morale. Les choses s'opèrent à partir d'une recomposition institutionnelle. Je passe sur les détails, mais disons par exemple que les prêtres qui étaient hier encore, les religieux qui étaient hier encore au cœur même du dispositif de l'enseignement public, se trouve, c'est la fameuse loi Goblet de 1886, reléguée désormais en dehors de l'école, dans des espaces d'enseignement privé que la République, cependant, leur ménage. Et puis il y a une recomposition axiologique, une recomposition axiologique qui vise précisément à isoler la morale civique, celle que les Français devront désormais porter, de toute influence du religieux. À travers un cours nouveau qui prend forme en 1882, en lieu et place de l'instruction morale et religieuse de la période antérieure, c'est le cours d'instruction civique et morale qui se structure autour de valeurs nouvelles, les valeurs de liberté, liberté individuelle et liberté collective, la fameuse soif de citoyenneté qui marque l'éthos républicain, la valeur de la solidarité. Le solidarisme ne naît pas simplement dans les années 1890, il est au cœur de la composition républicaine dès les années 1860-1870, et on le voit à l'œuvre dans les programmes au tout début des années 1880. Et puis, couronnant le tout, une valeur très kantienne, qui est celle de la dignité, qui appelle précisément une morale du devoir. Qu'est-ce qu'être un homme ? C'est être un homme digne. Un homme digne, c'est un homme qui respecte d'abord ses devoirs. Il y a là précisément toute une dimension sacrificielle de l'éthos républicain que les périodes antérieures vont venir remettre en cause. Alors, est-ce que précisément il y a encore dans ce schéma-là une place pour le religieux ? Je dirais oui, il y a une place pour le religieux, qui s'exprime à la fois sur le terrain du religieux historique. Quand nous reprenons les manuels de cette époque, quand nous étudions les déclarations des acteurs politiques de cette époque, nous voyons bien qu'il y a des références au grand siècle de chrétienté. Mais jamais à partir du surplomb de l'Église, toujours à partir de héros particuliers. On évoque Clovis, toujours subordonné d'ailleurs à la grande figure de Vercingétorix. On évoque Jeanne d'Arc. On évoque Saint-Vincent de Paul. On évoque même Bossuet, le théoricien de la monarchie absolue. Mais pourquoi évoque-t-on ces figures-là ? Non pas parce qu'elles sont représentatives d'une civilisation médiévale qu'il faudrait absolument retrouver, mais parce que ces figures-là annoncent déjà, à travers leurs pratiques sociales, tout ce qui va venir fonder l'ordre républicain, l'ordre de la modernité. Jeanne d'Arc, c'est le culte de la nation, cette valeur qui va porter le XIXe siècle. Saint Vincent de Paul, c'est déjà, à travers le langage du christianisme, la valeur de la solidarité que la République entend incarner. Récupération donc du religieux historique au service d'un projet républicain. Y a-t-il une place pour le religieux métaphysique ? La réponse est presque oui aussi. À travers l'instauration au sein même des programmes de l'instruction morale et civique, des devoirs envers Dieu. Ces devoirs envers Dieu qui étonnent aujourd'hui, qui seront d'ailleurs répudiés en 1923, mais qui ne renvoient pas, vous le voyez, à l'idée d'une religion historique, qui renvoient bien davantage à cette idée déiste qui a porté le XVIIIe siècle français, cette idée d'une religion naturelle où Dieu apparaît finalement comme consolateur de nos pauvres existences privées. Voilà un certain nombre d'éléments qui marquent finalement un modèle universaliste, in statu nascendi, dans son statut de naissance, dans son moment incoatif, le moment du commencement. Il va se prolonger, ce modèle, jusque dans les années 1960. Et les plus anciens d'entre nous qui ont pu faire leurs études encore dans le primaire au tout début des années 60, savent bien que ce modèle-là est encore en cours au tout début des années 1960 dans l'espace curriculaire français. Il va très vite cependant entrer en dissociation avec ce qu'on appelle, avec Clifford Geertz, une dissonance cognitive, avec les évolutions, avec les mutations de la société française. Et on voit que deux types de mutations vont bientôt, en France, nous affecter, qui vont rendre ce modèle universaliste assez impropre à accompagner les transformations du social. Il y a d'abord, dans les années 1960-1970, une transformation de nos paysages culturels. Nous vivions encore, rappelez-vous de ce point que j'évoquais tout à l'heure, dans l'ordre d'une morale du devoir, dans l'ordre d'une morale du sacrifice. À travers cette idée même, souvenez-vous des manuels de morale, que peut-être le plus grand des dons dans certaines périodes de crise, c'est de mourir pour la patrie. Il se trouve qu'à partir des années 1960-1970, nous entrons dans toutes les sociétés occidentales, et en particulier dans la société française, dans un moment, on peut dire, un moment singulariste. Un moment singulariste où les droits subjectifs se trouvent désormais substitués au principe des devoirs. À quoi s'ajoute une transformation des paysages sociaux. S'installe, à la faveur de la cosmopolitisation des existences, dans les sociétés occidentales, et en particulier dans les sociétés françaises, des populations nouvelles qui participent souvent encore d'un ethos traditionnel se traduisant contre le principe de privatisation de la modernité par la volonté d'affirmer sa propre sensibilité, sa propre identité, sa propre spécificité culturelle ou religieuse. Je veux parler ici évidemment de l'effet des mouvements migratoires dont l'affaire du voile condensera la réalité à la fin des années 1980. Alors tout cela va appeler une réaction de notre système de laïcité. Une réaction de notre système de laïcité, je fais signe déjà vers la deuxième partie de cet exposé, en vous disant que la laïcité, à partir des années 1980 et surtout des années 90-2000, va entrer dans un nouveau moment. Un moment que j'ai appelé à plusieurs reprises un moment intégrationniste, qui tout à la fois se montre accueillant à cette expression des pluralités, à cette expression des différences, à cette expression des singularités qui surgit de toutes parts, singularité de nous, des populations déjà installées, singularité des populations nouvellement arrivées. L'éthos de la différence se substitue progressivement au principe d'unité, mais en même temps, et il faut penser l'intégrationnisme de cette manière-là, ce modèle de laïcité aspire à rassembler sous le dais d'une même cohésion morale ces différences qui surgissent de toutes parts. On dira que le modèle intégrationniste n'est pas un modèle assimilationniste qui viserait à réduire totalement l'expression de la différence. Mais ça n'est pas non plus un modèle inclusiviste. Ce n'est pas un modèle inclusiviste qui viserait à accepter, comme ce fut la tentation des années 1970, l'harmonie naturelle des différences. Principe de différence associé à principe de cohésion, principe de singularité associé à principe de rassemblement, c'est ce qui marque la laïcité, et en particulier la laïcité scolaire des années 1990-2000. Je voudrais maintenant essayer de présenter cet intégrationnisme scolaire en vous disant que il va être fondé sur une reconnaissance de l'enseignement des faits religieux, une reconnaissance de l'enseignement des faits religieux qu'il va falloir articuler avec l'éducation morale et civique. Alors, je voudrais essayer de présenter ce moment en deux temps, en décrivant d'abord les réflexions préparatoires et en vous présentant ensuite les politiques confirmatoires. Alors, commençons, si vous voulez, par les réflexions préparatoires. Il y a des propositions très rapidement énoncées au cours de ces dernières décennies. Dès les années 1980, on l'ignore très souvent, il y a des propositions visant à intégrer l'enseignement des faits religieux, on ne dispose pas encore de cette expression, mais elle est déjà là, subrepticement, dans les programmes scolaires. Proposition de la Ligue de l'enseignement en 1982, au moment où l'on discute du grand service public de l'éducation nationale, il y a en 1985 deux rapports particulièrement importants, un rapport Bourdieu sur l'enseignement et un rapport Jacques Berck qui a été demandé par Jean-Pierre Chevènement, qui était alors le ministre de l'Éducation nationale, autour précisément de ces questions d'accueil de la différence, au cours de ces questions relatives à la relation entre migration et éducation. Et puis en 1989-1991, une réflexion particulièrement importante du recteur Philippe Joutard. Alors il y a, bien sûr, entre ces différents textes, des différences. Le rapport Bourdieu de 1985 est plus ouvert à l'éthos différentialiste que le rapport Berck de la même date. Mais, tous convergent vers cette idée qu'il faut donner de plus en plus d'importance, de plus en plus de visibilité à l'enseignement des religions à l'école publique. Plusieurs registres de légitimation interviennent. Je crois que Pierre Kahn va intervenir tout à l'heure avec Philippe Forêt pour discuter cette question. On voit bien qu'à l'époque s'articulent deux types de registres de légitimation, de cet enseignement qui, d'une certaine manière, tranche avec ce qui existait auparavant, en tout cas par la quantité qu'on veut lui donner, par la visibilité qu'on veut lui accorder. Il y a un registre instructionniste que met particulièrement en évidence le rapport de Philippe Joutard. La religion a construit notre réalité sociale en partie. Il convient que les élèves, qui sont aujourd'hui de plus en plus incapables d'accéder au patrimoine culturel commun, que les élèves puissent bénéficier de cours leur permettant de comprendre les significations à l'œuvre, dans les œuvres d'art, dans la vie sociale, dans nos existences individuelles. C'est un premier élément, mais s'ajoute très vite à ce registre instructionniste un second registre, qui est un registre de type éducationniste. Et l'on voit bien que derrière, très vite, dans les textes de Berck, c'est particulièrement évident, très vite, s'affirme cette idée qu'il faut, grâce à l'enseignement des faits religieux, produire de l'unité, produire de la cohésion dans une société qui, sans doute à bon droit, affirme ses différences, mais qui doit en même temps tenter de rassembler ces différences sous le dais d'un éthos partagé. Alors comment se servir de l'enseignement des faits religieux pour parvenir précisément à accomplir ce principe de cohésion ? Partir de deux éléments. Tout d'abord, par l'éducation, créer un langage ou un monde commun de référence. Ne pas enfermer les individus dans le seul enclos de leur singularité, leur faire partager des connaissances communes. Et puis s'ajoute à cela ce qu'on pourrait appeler une éthique de la considération ou une éthique de la reconnaissance, permettre à chacun et aux nouveaux arrivants en particulier, Jacques Berck et Pierre Bourdieu vont tout à fait dans ce sens, de pouvoir trouver dans l'éducation dispensée au sein du système d'enseignement, de pouvoir trouver une illustration de ce qu'ils sont dans leur propre culture personnelle et familiale. Alors voilà, si vous voulez, deux types de registres qui interviennent et qui vont susciter immédiatement des réticences. Des réticences dont les arguments ne se sont pas taries avec les années 1990. Des réticences qui continuent aujourd'hui encore à alimenter les réflexions d'une partie des membres du Conseil des sages, mis en place par Jean-Michel Blanquer pour essayer de réfléchir au sein du ministère aux questions de laïcité. On voit d'abord, l'un d'entre nous en parlait tout à l'heure, cette idée que le catholicisme, le magistère en particulier, n'est guère favorable à cet enseignement des faits religieux. Le magistère estime, c'est la grande voie de Mgr Lustiger, prolongée aujourd'hui par la voie du nouvel archevêque de Paris, Mgr Aupetit, que l'on risque, en enseignant les faits religieux, de faire perdre à la fois ce qui fait sa singularité. Et cette singularité, c'est précisément un rapport à la transcendance qu'on ne peut pas réduire à n'être qu'une concrétion du social. Et à travers ce débat, on voit, peut-être certains d'entre vous en ont-ils le souvenir, les débats à l'œuvre dans la revue du début du XXe siècle, la revue Sociologie catholique, où déjà Durkheim était visé par les savants catholiques en disant « il est en train de réduire notre foi à n'être qu'une simple production de la société ». La foi, par sa transcendance, échappe précisément à toute déterminité sociale. C'est un premier pôle d'opposition. Et puis il en est un second qui va se construire, en effet, autour de l'école néo-républicaine, en pointant en particulier le fait que l'enseignement des faits religieux renvoie chacun, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à des appartenances préalables, à cette idée que c'est à partir des déterminations, ou en tout cas des influences, de sa propre culture, une culture portée par la famille, très souvent, qu'il doit construire sa propre existence personnelle, et l'église, l'école doit être d'une certaine manière le reflet, le miroir de cette réalité qui se joue dans le social. Insupportable pour ce néo-républicanisme dont tout le paradigme est un paradigme de l'arrachement à la déterminité culturelle, sociale ou familiale pour permettre à l'individu d'accéder par un effort d'émancipation à l'âge de sa majorité universaliste. Alors voilà deux types de réflexions qui vont se focaliser contre l'enseignement des faits religieux à l'école. Cela n'empêchera pas le pouvoir politique de le mettre en œuvre, et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer maintenant dans la dernière partie de cet exposé, qui est la deuxième sous-partie de ma deuxième partie, si vous voulez, que je vais appeler maintenant les politiques confirmatoires. Alors, les politiques confirmatoires, elles sont très marquées tout de même par la culture politique française. On ne va pas substituer à l'enseignement moral et civique un enseignement religieux, comme ça a pu être le cas dans d'autres sociétés européennes que j'évoquais au début de mon intervention. On va essayer, parce qu'il y a des oppositions très fortes dans la culture politique française que j'exposais à l'instant, d'articuler précisément à la fois l'ouverture que peut représenter l'enseignement des faits religieux à la dimension religieuse de l'existence, et puis en même temps ce schéma universaliste qui structure une partie de la communauté scolaire, une grande partie de la société française et qui marque au fond notre culture nationale. Du coup, la politique publique qui va se mettre en place sur cette question dans les années 1990, 2000, 2010, est une politique qui est une politique marquée par un vrai principe de prudence. Ce qu'on appelle en sociologie des politiques publiques un principe d'incrémentalisme, essayer de faire avancer les choses, mais avec toute la lenteur, toute la prudence qu'imposent précisément les pesanteurs, les viscosités culturelles de notre propre société. Je vais essayer de le démontrer à partir de deux temps. D'abord en évoquant les processus de production de cette politique publique, et puis en mettant l'accent aussi sur ses contenus, les processus. On fait très souvent la distinction, si vous voulez, entre deux types de politiques, ce qu'on appelle les politiques de coordination et les politiques de communication. Les politiques de coordination concernent très souvent des politiques qui mettent en jeu simplement des agents administratifs, avec une sorte de mise en surplomb des acteurs politiques qui ne s'expriment pas sur la question. Et on voit bien que dans les années 1990, on est confronté, pour ce qui concerne la France, à une politique de coordination. Un silence très, très profond des acteurs politiques sur la question, qui délègue à des acteurs administratifs le soin de mettre en place les premières expériences relatives à l'enseignement des faits religieux à l'école laïque. Tout cela commence avec des initiatives locales. Les initiatives, par exemple, de la proviseure du lycée Buffon, qui fait appel à Daniel Hervieux-Léger pour organiser au lycée des cours d'éducation aux faits religieux, sur la question en particulier de la sécularisation, sur la question de l'apport du christianisme à la modernité. Autant d'éléments qui passent par un acteur local. Ce sont ensuite des acteurs de l'inspection générale qui interviennent dans les années 1995-1996 pour instiller davantage qu'auparavant dans les programmes d'histoire des éléments religieux ou des éléments de culture religieuse qu'on ne trouvait pas auparavant, qu'on trouvait auparavant de manière moins affirmée. Discours, vous le voyez, ou politique de coordination. Les acteurs politiques se mettent en retrait, comme si d'une certaine manière eux aussi étaient affolés de leur propre audace face à une culture des groupes scolaires qui est encore très marqué alors par le principe universaliste. Les acteurs politiques vont intervenir essentiellement à partir de l'attentat des Twin Towers, à partir de l'attentat des tours jumelles, où l'on voit en effet Jacques Lang demander à Régis Debray de produire un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Tout cela est à l'origine de toute une série de mobilisations, mobilisation des parlementaires, rapport Barouin, rapport Debray, mobilisation des ministres qui, sans différence entre leurs orientations politiques, de Darcos à Blanquer, en passant par Najat Vaillant Belkacem, entendent précisément promouvoir l'enseignement des faits religieux à l'école. Et puis, il y a aussi les discours présidentiels, ceux de Jacques Chirac, de François Hollande, d'Emmanuel Macron, qui vont tous dans le sens d'une acceptation généralisée, au point de les inscrire dans le socle de compétences et de connaissances de l'enseignement des faits religieux. Alors l'idée est claire. Quand vous lisez l'ensemble de ces discours, vous avez deux éléments qui interfèrent constamment. Il y a un premier élément qui est une éthique de la considération. L'idée précisément que chacun doit être reconnu dans l'école en fonction de sa propre appartenance culturelle ou religieuse. Et notre ami inspecteur pédagogique régional, d'une certaine manière, tout à l'heure, reprenait cette idée. Et puis, il y a aussi parallèlement une éthique du rassemblement. Affirmation des différences, bien sûr, mais une affirmation des différences qui ne doit pas remettre en cause la nécessité d'un rassemblement civique autour des valeurs de la République qui sont promues par l'enseignement moral et civique. Voilà donc, si vous voulez, un élément qu'on peut dire un élément intégrationniste. Il s'agit tout à la fois de reconnaître de la différence sans faire de la différence le point d'aboutissement ultime de la réussite d'un système scolaire. Différence, mais intégrée dans le cadre des valeurs qui viennent lui donner sens. Alors on est là dans ce que j'ai appelé par ailleurs un tournant substantialiste de la laïcité française. La laïcité française, ça n'est pas simplement un principe depuis les années 2000, c'est aussi un ensemble de valeurs, des valeurs cohésives, des valeurs de rassemblement qui permettent aux différences tout à la fois de s'exprimer et de ne pas, par leur expression, remettre en cause le souci d'ordre et de cohésion qui anime aussi la République. Alors, je voudrais terminer en vous disant, si vous voulez, que tout cela va se traduire par des contenus qui sont également des contenus finalement très, très prudents de ce point de vue et qui marquent d'une certaine manière, tout en signalant l'évolution du système français, sa singularité dans l'espace européen. Ce que nos gouvernants vont essayer de mettre en place et qui distingue le modèle français des autres modèles européens, c'est d'abord un enseignement transdisciplinaire. Cette idée qu'on a refusée dès les années 1990 et sans rupture de continuité depuis lors, de construire une discipline en tant que telle. Il y avait eu cette proposition dans les années 1990. Jean Bobéro est allé dans ce sens. Régis Debray aussi allait dans ce sens. Créer un enseignement de sciences des religions à l'école secondaire, premier cycle, deuxième cycle. Il s'agissait de mettre cela en place. Ça a été refusé. Et pour des raisons qui sont bien sûr des raisons de coût, mais aussi des raisons de diplomatie, ne pas froisser la culture scolaire qu'on imaginait, et puis aussi des raisons épistémologiques, cette idée qu'il faut insérer le religieux dans des disciplines déjà existantes pour prendre le religieux à travers, non pas sa singularité close sur elle-même, mais à partir des interrelations, des interactions que le religieux éprouve, que le religieux met en scène à travers la relation qu'il noue avec l'histoire et avec la société où il est inséré. Je dirais que tout cela, cet enseignement transdisciplinaire, se trouve confirmé par un enseignement qu'on veut objectivant et que signale en particulier l'expression « fait religieux », qui est une expression qui nous vient de Mauss et de Durkheim, mais qui vise à penser le religieux à partir de son insertion dans des systèmes contextuels préalables, sans que pour autant on remette en cause la singularité des systèmes de sens qu'ils portent. Alors, évidemment, tout cela débouche sur deux distinctions qui sont des distinctions très importantes dans l'éthos de l'école républicaine, la distinction entre science et croyance, toujours faire cette distinction entre ces deux polarités de l'approche des réalités, et puis la distinction entre religion et morale. Cette idée que l'enseignement des faits religieux, les ministres le disent constamment, n'a aucune vocation à venir fonder la morale civique. La morale civique dépend d'autres facteurs, et on a vu au cours de ces dernières années ressurgir dans les textes ministériels et dans les textes présidentiels la grande expression de raison, une raison inclusive qui accepte la différence, mais qui, pour autant, ne se dissout pas dans la singularité qui fait signe encore vers l'idée d'universel. Je voudrais, et ce sera ma conclusion, vous dire que, pour autant, les choses ont changé en France. Bien sûr, il existe des dépendances au passé. Je viens d'évoquer l'impératif de cohésion. Je viens d'évoquer la distinction entre science et croyance, la distinction entre morale et religion. Ce sont des points très lourds du positivisme français. Et pourtant, les choses ont changé au cours de ces dernières années. Elles ont changé au plan matériel. Il y a une plus grande quantité, une plus grande visibilité de phénomènes religieux dans les programmes scolaires. Nous allons, au cours de ces deux journées, aborder ces points. Et il est assez aisé de voir les différences entre les manuels scolaires des années 1950 sur ces questions et les manuels scolaires d'aujourd'hui. Deuxième remarque, plus importante encore, au plan conceptuel, on est confronté à un réagencement de la relation entre l'école et la religion. L'école s'ouvre davantage aujourd'hui aux influences du monde extérieur. On est confronté, me semble-t-il, à une forme de désanctuarisation de l'espace scolaire. Enquête est ici, comme organisatrice de ce colloque. L'enseignement catholique est ici, comme s'il s'agissait précisément de défrontiériser ce que la République durkheimienne, au nom de son obsession de la différenciation, avait institué. Et puis il y a aussi une chose très importante qui revient constamment sous le concept d'enseignement des faits religieux, une exaltation de la singularité, une exaltation des différences culturelles qu'il s'agit sans doute de rassembler sous un ethos commun, mais qui traduit dans la société française une sorte d'impératif de l'enracinement et qui vient d'une certaine manière s'opposer ou en tout cas nuancer l'impératif de l'arrachement qui marquait l'école de la Troisième République. Je vous remercie.